Bonjour, Martin.
On s'entend que c'est une histoire assez rocambolesque. Tout ça part d'un triangle amoureux, madame qui avait un conjoint et un amant. Et là, ça s'est retrouvé concernant la paternité de l'enfant devant le tribunal. Et même, là, c'est la Cour du Québec, la Cour d'appel, qui vient dire que le père biologique, qui en fin de compte est l'amant de madame, ne peut obtenir la paternité de l'enfant.
C'est ça. Alors, je vous résume les faits brièvement. Madame apprend en septembre 2014 qu'elle est enceinte de son conjoint avec qui elle vit depuis 2007. Alors, ce couple-là essayait d'avoir un enfant et bon, il y avait toutes sortes de circonstances qui faisaient que c'était pas tout à fait le temps. On reportait ça à plus tard. Puis on avait des difficultés financières aussi. Madame habitait dans la ville A et travaillait dans la ville B à environ 100 km de distance. Okay? Ouais. Alors, madame, dans la ville B, elle a un chum, elle a un amant.
Ouais.
Alors, puis naturellement, cette relation-là est cachée. Alors, elle est enceinte, elle apprend qu'elle est enceinte en septembre 2014, annonce à son chum, appelons-le comme ça, qu'elle est enceinte. Tout le monde est heureux, les deux familles sont contentes, on commence déjà à choisir le prénom de l'enfant. L'enfant va venir au monde en mai 2015, et là, tout le monde est là à l'hôpital. Lorsque la famille du papa quitte, maman téléphone à son amant. Elle lui dit, tu peux venir enfin voir ton fils, puisque la famille de mon chum a quitté. Alors, le père biologique de l'enfant se rend à l'hôpital, prend des photos de lui avec son garçon, avec la mère, avec le numéro de la porte de chambre de l'hôpital. Et là, finalement, ben maman va retourner à la maison avec le petit garçon. Et sur l'acte de naissance de cet enfant-là, c'est le nom de son conjoint qu'elle va écrire, pas le nom de son chum, de son amant.
Ouais.
Bien évidemment.
Ouais. Alors, et ça a été confirmé par test d'ADN aussi, là?
Bien, l'amant, c'est ça. L'amant va faire un test d'ADN plus tard, là.
OK.
Fait que là, maman retourne à la maison avec le petit garçon et au mois d'août, ça fait le petit 4 mois, les parties se séparent. Et madame, qu'est-ce qu'elle fait? Vous l'aurez deviné. Elle retourne voir son amant. Hein?
Mm-hmm.
Alors, les parents signent une garde partagée et l'ancien conjoint va avoir le petit une semaine sur deux. L'enfant porte son nom.
Oui.
Tout le monde reconnaît dans l'entourage qu'il est son fils.
Oui.
Et la mère, lorsqu'elle est avec son amant, bien là, elle présente son fils à la famille de l'amant qui va devenir son nouveau chum.
Mm-hmm.
Et là, la grand-mère a des doutes. La mère de l'amant. Plutôt, il te ressemble donc bien, lui. Il ressemble à tes autres garçons. Et là, l'amant commande un test d'ADN à usage privé. Fait le test d'ADN et effectivement, on confirme que c'est son fils.
Ouais.
Là, la mère dit, s'il te plaît, je t'en supplie, dis-le pas à personne. Alors,
ouais.
Ça reste secret. Et là, vous aurez compris que le petit garçon est en garde partagée dans la ville B, dans la ville A. Il va à l'épicerie avec sa mère puis avec les deux hommes. Hein? Et puis, dans les deux villes, cet enfant-là est connu comme ayant un papa qui est l'amant. Puis, dans l'autre ville, son vrai papa. Alors, là, ce qui se passe en février 2017, là, ça pète.
Ouais.
Ça l'éclate. Le père de l'enfant apprend que madame avait une double vie et là, le chat sort du sac. Madame va finir par dire, ben c'est pas toi le père biologique. Alors, le père continue de s'occuper de l'enfant et l'amant décide qu'il fait une requête pour se faire reconnaître père.
Mm-hmm.
Alors, la filiation d'un enfant, ça s'établit avec le certificat de naissance et la possession d'État. Alors, sur le certificat de naissance de l'enfant, ben c'est l'ancien chum de madame qui est là, vous en souviendrez.
Oui, oui.
La possession d'État, ça, c'est qui s'occupe de l'enfant, qui agit comme papa aux yeux de tous envers cet enfant-là.
Oui.
Alors, souvenez-vous hein, que dans les deux villes, les deux pères
prétendent que ce sont leurs garçons.
Et oui, c'est ça. Sauf que l'amant, lui, c'est secret. on ne l'a pas dit à personne que c'était vraiment lui le père. Mais ouais. Il agit comme s'il était le papa.
Ouais.
Alors, ce que la Cour supérieure dit, c'est bien, vous avez trop tardé pour contester la filiation du père sur l'acte de naissance. Alors, vous ne pouvez plus dire que c'est vous le papa. Parce que le père, sur l'acte de naissance, lui, sa filiation, elle est claire parce qu'il y a son nom est sur l'acte de naissance. Mmh. Et en plus, il s'occupe de l'enfant depuis plus de 22 mois.
Ouais.
Alors, aux yeux de tous, il est connu comme étant son père. Alors, c'est ce que la Cour supérieure dit. Mais il subsiste quand même certaines questions qui font en sorte que la Cour d'appel intervient. Et là, la Cour d'appel confirme que lorsque l'acte de naissance de l'enfant est conforme avec la possession d'État que fait son papa, même si c'est pas son père biologique, la stabilité de la filiation commande qu'on reconnaisse ce père-là comme étant son vrai père, même si on sait qu'il y a un père biologique qui est impliqué ailleurs.
Mais...
Alors, ce qui a fait pencher la décision dans cette affaire-là, c'est vraiment qu'on ait voulu garder secret la filiation biologique de l'amant. Et si l'amant voulait vraiment s'investir publiquement dans la vie de cet enfant-là, il devait faire une requête en désaveu dans des délais pas mal plus courts que ce qu'il a fait. Il devait agir sans délai pour dire, ben c'est moi le père biologique.
Ouais.
Alors, le fait qu'il ait laissé l'autre père s'occuper de l'enfant pendant près de 2 ans est fatal. Alors, le législateur québécois priorise la filiation d'un enfant, la stabilité de la filiation d'un enfant à la filiation biologique.
Oui, mais Maître Girard, il y a quand même une nuance importante et il faut le dire que ce sont 2 juges sur 3 qui ont donc donné ce jugement parce qu'il y a dissidence de la part d'une des juges qui vient...
Il y a la juge Dutille qui dit, écoutez, dans ce cas-là, c'est un cas extrêmement rare. On a le papa sur l'acte de naissance et on a le père biologique.
Ouais.
Les deux s'occupent de l'enfant. Les deux agissent au niveau de l'éducation, l'entretien et publiquement, dans chacune de leurs villes, ils sont reconnus comme étant celui qui est le père. Moi, j'aurais... La juge Justine a dit, écoutez, là, c'est un cas difficile. Moi, j'aurais priorisé le père biologique.
C'est ça.
Alors, elle est dissidente. Mais c'est un cas extrêmement unique. Peut-être que ça ira plus loin. Peut-être en Cour suprême.
Ben, c'est ce que j'allais vous demander, parce que déjà qu'il y a dissidence à la Cour d'appel, 2 sur 3, c'est pas tentant, d'ailleurs, pour les avocats du père biologique de poursuivre la bataille?
C'est très tentant, mais ce qu'on doit souligner dans cette décision-là des juges de la Cour d'appel, les juges le disent très bien, c'est il faut qu'on dise publiquement que le père de l'enfant offre de conserver le lien entre l'enfant et son papa biologique.
Ben là,
alors, on voit pas ça souvent.
Ouais.
Alors, c'est un enfant qui a comme 3 parents en ce moment, ce qui est pas permis par la loi actuellement. Alors, peut-être que ça va se transporter en Cour suprême, parce qu'on pourrait avoir là, une situation avec un couple de filles. Un enfant né d'un couple de filles pourrait avoir aussi 3 parents. Peut-être que ça pourrait intéresser la Cour suprême.
Absolument. Merci beaucoup de ces précisions, Maître Girard.
Ça m'a fait plaisir.